Protestants au pluriel, des convictions qui dialoguent, un engagement qui résonne. Bonjour, protestants au pluriel, Yolande au micro pour vous faire découvrir la richesse du protestantisme français. En effet, nous allons à la rencontre des églises et membres de la Fédération protestante de France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le mouvement protestant La Cause, représenté par Julien Coffinet, pasteur et directeur général. Bonjour Julien.
Bonjour Yolande.
J'ai un aveu à vous faire. Je connaissais La Cause en fait parce que j'avais une amie qui cherchait à caser son fils célibataire et qui m'avait demandé si je connaissais une structure qui s'occupait de faire des rencontres. Mais bon, je suppose, c'était il y a 30 ans déjà, et je suppose que vous ne faites pas que ça. Et on va en parler de ce que vous faites.
J'espère qu'il a trouvé depuis 30 ans.
Non, en tout cas, il n'a pas trouvé.
comme beaucoup de personnes, vous nous connaissez par un des aspects.
Voilà.
Et c'est toujours comme ça. Et c'est déjà bien de nous connaître. On est déjà très contents de servir là où il y a des besoins. Et puis, en fait, effectivement, on a une offre qui est plus vaste que ça.
Alors, on va commencer très simplement. Donc, est-ce que vous avez un slogan ?
Donc notre ligne directrice, c'est vraiment la foi en action. En fait, ça dirige nos actions aujourd'hui, et puis ça a dirigé aussi vraiment l'histoire de la Fondation, même la création de La Cause. Dès 1920, c'est vraiment une œuvre d'évangélisation qui tout de suite s'est voulu une œuvre d'évangélisation par la parole, par la prédication, écrite, orale, mais immédiatement vraiment une manifestation par des actes, avec des œuvres, une œuvre sociale, une œuvre humanitaire ensuite, et c'est cette histoire qui fait ce qu'on est aujourd'hui, et ça continue de nous habiter vraiment profondément, joindre nos convictions à une action très concrète.
Et c'est étayé sur un verset biblique particulier.
Voilà, en fait, plein de versets,
oui,
mais
sûrement.
Vu que je savais que vous alliez m'interroger, j'en ai quand même calé un.
C'est les bons élèves. Hein.
Voilà, le bon élève. J'ai pris celui qu'on met en avant dans plein de documents, qui est celui de l'épître de Jacques, que votre foi manifeste sa réalité par des actes, et ça résume vraiment très très bien ce qu'on essaye de faire et de vivre à La Cause.
Alors, on va voir ce que vous faites à La Cause, mais d'abord, vous-même, Julien Coffinet, donc vous êtes pasteur et directeur général, vous êtes le bâtisseur du temple, le pilote du bateau, le gardien du troupeau, enfin, quel est votre rôle ?
Je suis un pasteur. J'étais pasteur d'église juste avant d'aller à la Fondation La Cause. Dans l'équipe, on est tous engagés dans notre foi. On est quelques pasteurs. C'est pas pour garantir quoi que ce soit au niveau institutionnel. On est plus des frères et des sœurs parmi les autres frères et les autres sœurs. Par contre, c'est vrai que la conviction, elle est forte. Le cap spirituel, ça c'est on y tient, et ensuite on navigue aussi comme une fondation, avec une œuvre sociale, une œuvre humanitaire, et puis évidemment des problématiques de gestion, tout ça, et on essaye d'être équilibré entre des convictions spirituelles très ancrées et en même temps une concrétude vraiment forte dans les réalités quotidiennes, quoi.
Alors, quelles sont vos actions principales à La Cause ?
Je vais vous présenter ça en quatre départements, qui sont les quatre départements presque historiques de la Fondation La Cause. On a un département autour de l'enfance vulnérable. D'abord, une œuvre d'adoption qui a traversé le 20e siècle. Puis maintenant, on a bifurqué sur le parrainage au Togo, Haïti, Madagascar et Cameroun. Donc, une œuvre humanitaire. Ça, c'est l'enfance vulnérable. Le deuxième département, c'est la cause des aveugles et des malvoyants. Et notre action, on alimente et on organise une bibliothèque sonore et braille, maintenant disponible en téléchargement. Et puis on organise des séjours adaptés, des activités adaptées, inclusives pour les aveugles et les malvoyants. Troisième département, c'est un département très relationnel pour les célibataires, les couples et les familles.
Dont je parlais au début.
Dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, ça, ce troisième département, en fait, il correspond à... avec les célibataires, c'est vraiment rompre la solitude de certains célibataires, favoriser la rencontre, d'abord la rencontre de communion amicale, et plus si affinité, évidemment. Le couple, c'est le soutien au couple, et puis les familles, c'est un nouveau département, enfin une nouvelle action qui est vraiment centrée sur le lien, la parentalité, avec une attention particulière aux neurodiversités, dans le cadre de toutes les problématiques de famille qu'on peut trouver aujourd'hui dans la société contemporaine. Voilà. Et le quatrième département, c'est la maison d'édition. C'est pareil, ça c'est vraiment le cœur historique de la Fondation. Et la maison d'édition, elle tourne encore aujourd'hui. On publie entre 5 et 10 livres par an, avec une gamme qui alimente l'histoire et les idées du protestantisme, mais aussi des bouquins jeunesse, des bouquins qui essayent de faire réfléchir, de poser une réflexion sur la foi aujourd'hui, avec une perspective protestante et une perspective large.
Et donc, c'est votre singularité au niveau des œuvres protestantes. Vous estimez que vous avez un rôle particulier à jouer dans ce domaine-là?
Je pense que notre particularité au sein des œuvres protestantes, c'est d'être tellement, tellement généraliste qu'on est en contact avec plein d'autres œuvres protestantes. On a plein de raisons d'être en contact avec des églises. Et c'est pour ça que l'un ou l'autre nous connaît par un endroit. C'est parce qu'on est extrêmement généraliste. Vraiment, ça, je pense, c'est notre particularité. Et deuxième particularité, c'est qu'on est vraiment, depuis la création de la cause, on est en terrain œcuménique protestant, avec ça a été fondé par des pasteurs réformés, mais des pasteurs réformés qui étaient dès l'origine vraiment très attentifs à ne pas enfermer la cause dans une famille d'église ou dans une institution ecclésiale, mais à vraiment la faire rayonner très très largement. Donc aujourd'hui, on a vraiment dans toutes nos activités, on va des frères et sœurs pentecôtistes jusqu'aux luthéraux réformés, des catholiques aussi qui nous rejoignent sur certains secteurs. Voilà, on est vraiment très très large.
Est-ce que vous apportez, c'est une aide matérielle, on l'a bien compris, une aide matérielle, morale au prochain. Est-ce que vous visez une meilleure société?
Oui, on vise une meilleure société, bien sûr. J'avoue que je réfléchis même pas jusque-là parfois. Je vise sur notre département humanitaire parrainage, on vise surtout une meilleure vie pour le petit garçon et la petite fille qui sont dans cet orphelinat qu'on soutient. Voilà, on voit pas à pas. Alors, le but final, une meilleure société, bien sûr, je suis pour.
Bien sûr, tout le monde.
Je suis pour.
Mais c'est à travers des cas concrets.
On fait vraiment du pas à pas avec avec beaucoup de modestie. On fait ce qu'on peut là où on est.
Et les valeurs essentielles qui tendent votre mouvement, bon, on les a comprises. Est-ce que on peut discuter au sein de vos groupes, au sein du conseil d'administration? Est-ce qu'on peut discuter de vos convictions, est-ce qu'il y a des débats sur vos orientations? Comment ça se passe?
Oui, on discute beaucoup. La pluralité amène aussi à discuter. Alors la pluralité, ça peut amener parfois, ça peut amener justement non, faut surtout pas qu'on discute parce que sinon on va mettre le feu aux poudres. Mais nous, on a une parole très libre. Ouais, c'est vraiment. Donc, on discute. Oui, on discute beaucoup.
Et l'identité protestante, donc dans votre association, elle se vit pour tout le monde, les responsables, les militants. Vous avez parlé qu'il y a des catholiques qui se joignent à vous. Est-ce que les bénéficiaires ne sont pas uniquement protestants, je suppose Sur qui repose l'identité protestante du mouvement?
Voilà, c'est très important. On est une fondation reconnue d'utilité publique. Donc, on est vraiment, on est là pour tous, pour un très grand nombre. Et donc, on fait absolument aucune distinction pour nos bénéficiaires. Ça, c'est clair, c'est très important. Mais on a un ancrage qui est très fort. notre ancrage, alors c'est pas d'abord le protestantisme, notre ancrage c'est Jésus-Christ, c'est vraiment important. Mais ensuite, c'est vrai qu'on a été façonné par de la pensée protestante, une manière de vivre protestante. Le conseil d'administration est, je crois, unanimement protestant dans sa diversité. Et après, dans l'équipe salariée, on est beaucoup à être engagé dans des églises protestantes, mais c'est pas ça, vous voyez, c'est pas ça qui compte le plus. C'est vraiment un socle de conviction et un enracinement spirituel. Et après, dans les bénéficiaires, bah je vous ai dit, on va partout, et alors particulièrement dans l'œuvre humanitaire. Là, évidemment, il n'y a plus aucune distinction de religion, quelle qu'elle soit.
Est-ce que vous avez des préjugés qui vous collent à la peau ? Est-ce qu'on pense que la cause est trop ceci ou cela ? Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de réflexion ou pas du tout ?
Oh bah, la cause, vu que chacun la connaît par un endroit,
oui.
Tout le monde pense que c'est que cet endroit qui est le
cœur
de la cause. Non, parce que c'est tout le monde qui pense comme
d'accord.
ça. Et en fait, voilà, notre difficulté, c'est vraiment à pouvoir remonter de la cause particulière à la cause générale, et puis bah du coup fondamentalement à la cause de Christ, hein. Ça c'est vraiment notre gros enjeu, mais c'est tout à fait normal, on le vit comme un challenge accepté.
Alors on va passer à la place des femmes dans votre mouvement, dans votre association. Comment vous voyez la place des femmes ? Est-ce qu'elles ont une place spécifique, ou bien est-ce qu'il y a ni homme ni femme, comme dit l'apôtre Paul ?
C'est pas vraiment un grand sujet.
Mmh.
Parce que en fait, ce qu'on essaie de vivre, c'est une fraternité simple, avec une manière de diriger les projets pour chacun, avec vraiment beaucoup d'autonomie. Et donc du coup, on a une prise d'autonomie de chacun en fonction de ses compétences,
oui,
de ses
capacités. Oui, vous ne posez pas la question de savoir si telle personne peut être à une place de responsabilité parce qu'elle est une
ouais.
femme ou pas.
Non,
ça ne rentre pas en compte.
Bah, on connaît les débats contemporains, donc on
voilà.
sait très bien qu'il faut faire attention à certaines représentations. Mais honnêtement, on n'a pas beaucoup de mal parce qu'en fait, on a des femmes super compétentes autour de nous, et donc on n'a pas besoin de.
On n'a pas eu besoin
de faire de la discrimination positive aux femmes.
D'accord. Et les violences sexuelles, est-ce que vous en avez rencontré dans votre mouvement ? Est-ce qu'il y a eu des problèmes ? Est-ce que vous vous engagez pour les prévenir ?
Alors, en fait, vu qu'on a toute cette œuvre sur les célibataires, les couples et les familles, évidemment, on est très attentif à ce sujet-là, puisque parmi les célibataires qu'on accompagne, il y a des célibataires qui ont déjà subi un divorce, des violences conjugales, physiques ou psychologiques, et donc. Oui, on a fait plusieurs séjours où en fait on était accompagné de une coach en relation d'aide, typiquement sur les violences faites aux femmes. On essaie d'ouvrir des espaces de parole pour ensuite permettre un accompagnement. Voilà, on essaie d'accompagner ça avec les célibataires évidemment. Donc c'est une problématique qu'on rencontre beaucoup.
Mmh.
Avec les couples, je crois que on en rencontre évidemment aussi quand ça va jusque là. Parfois on les rencontre déjà plus en couple.
Mmh.
Donc on réaccompagne une nouvelle célibataire ou
oui.
voilà. Mais évidemment on est très très attentif là-dessus. Et au niveau des familles, bah je vous disais tout à l'heure qu'on était très branché sur la question de la parentalité, et cette question-là, c'est vraiment réfléchir à toute notre à toutes nos impensées dans les relations, notre manière d'exprimer toutes nos émotions, nos sentiments, etc. Et tout ça, c'est vraiment central. En fait, on a été rejoint par une neuroscientifique, une chercheuse qui a passé les 15 dernières années de sa vie à vulgariser des neurosciences sur le développement du cerveau des bébés, mmh. dans ses interactions avec ses éducateurs. Et en fait, forcément, l'apport de cette collègue, c'est vraiment de nous faire réfléchir à plein de choses qui sont impensées, invisibles, sur lesquelles on n'arrive pas forcément à mettre de mots et qui pourtant nous travaillent. Je pense que c'est à peu près ce que l'apôtre Paul appelle la puissance de la chair en nous. Et comment cette puissance de la chair, on arrive à la dompter pour dans nos relations, pour pas faire de dégâts avec notre nature charnelle, c'est vraiment fondamental. Et là, on touche au cœur du sujet des relations hommes-femmes, des relations entre les humains, les relations de domination, les relations de puissance et tout ça.
Et toutes ces réflexions là que vous avez, vous les mettez à disposition du public, est-ce qu'elles sont suffisamment vulgarisées dans un bon sens du terme, est-ce qu'elles sont suffisamment adaptées pour le grand public, est-ce qu'on peut les trouver facilement?
Oui, alors exactement cette contribution là, c'est une contribution qui est récente et qui est en train de se développer, donc elle est en train, elle est pas encore sous presse, mais bientôt. Après, évidemment, notre réflexion, vu qu'on a une maison d'édition, on a eu cette spécialité du conseil conjugal et familial déjà avec Nicole et Alain Devels, qui étaient nos prédécesseurs, à mon épouse et moi-même à la cause. Et donc oui, on a, grâce à la maison d'édition, en fait, on peut alimenter le débat avec pas mal de choses. Et puis finalement, après, c'est quand même beaucoup dans nos séjours, dans nos formations, qu'on déploie nos programmes, nos convictions et qu'on en débat. Donc c'est pas forcément de la ressource pour l'instant qui est toujours grand public sous forme de livres ou de blogs.
Sur le site internet on trouve des éléments pour les gens que ça intéresserait, qui seraient.
Ouais, quiconque est intéressé, allez faire un tour sur notre site internet.
Oui, c'est
une bonne ressource. On a un site qu'on a bien travaillé, on est content. ouais, allez-y.
Et donc vos défis, les plus grands défis que vous avez et surtout les projet.
Les défis, les projets, en fait, on a une œuvre qui est déjà vaste, mmh. et on doit alimenter tout ça avec le plus de sérieux possible sur chacun des sujets sur lesquels on est attendu, parce qu'on est très attendu.
C'est-à-dire qu'on vous surveille, on vous...
Les célibataires qui connaissent la cause et qui ont mis quelques espoirs dans la cause, ils attendent qu'on continue à avoir des propositions de valeur qui soient intéressantes et importantes pour eux. Et donc, ils nous attendent et on compte pas les décevoir. Quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était engagé à Madagascar, Togo,
oui.
Haïti, Cameroun.
Oui.
Bon, c'est des pays où on compte des partenaires qui ont vraiment fondamentalement besoin de nous. Et on essaye d'être là, nous, là, en tant que collecteurs de fonds, conseils dans les projets et partenariats dans les projets. C'est sûr que quand on va faire un tour, nous, nos visites aux partenaires à Madagascar ou ailleurs, on revient pas en se disant qu'on a envie juste de faire tourner notre boutique. On est habité... hanté, je sais pas, mais presque par l'idée de pouvoir promouvoir le parrainage parce que c'est une question de survie, voilà. Et donc en fait c'est les publics les uns après les autres qui nous font le retour qu'ils nous attendent, qu'on compte pour eux et ça nous motive.
Et dans la société française, vous avez l'impression d'être attendu, d'apporter quelque chose à la société?
Alors, je compte bien qu'on apporte quelque chose à la société française. Je sais pas si elle nous attend. Vous savez, on n'est pas là pour recevoir des lauriers. Et donc, je sais pas qui se rend compte de ce qui est fait pour des personnes qui sont parfois complètement invisibilisées. Il y a dans notre public des célibataires au bout de la France, cloîtrés dans un appartement que personne ne voit, fait un tour dans l'église et à peine vu dans l'église, des aveugles nous disent la même chose. Quand ils avaient un chien, les enfants de l'église venaient caresser le chien et parler à la fin du temps du culte. Et puis depuis que le chien est plus là, plus personne les voit. Eux, ils voient personne, ils peuvent pas aller vers les gens, mais plus personne les voit. Bon, bah, dans la société, c'est un petit peu comme ça. Nous, on s'occupe des gens que le Seigneur a mis sur notre chemin, ici en France, au loin. On fait ce qu'on peut. Je ne sais pas si la société s'en rend compte, mais nous, on œuvre avec conviction.
Et par exemple, un célibataire que vous constatez très rapidement que vous ne pourrez pas le caser parce qu'il est macho, qu'il a une position vis-à-vis des femmes qui n'est pas tout à fait... ces fameux involontaires célibataires, là. Est-ce que vous leur dites... Est-ce que vous essayez de les faire changer ou est-ce que vous leur dites d'aller voir ailleurs parce qu'ils sont incasables?
Alors là, c'est concret, la question.
Ben
hein.
Oui.
Ouais, bah, très concrètement, bon, bah, voilà, je vais répondre en vérité, alors.
Oui, en vérité.
En fait, on fait vraiment absolument tout ce qu'on peut pour faire progresser les gens. Autant qu'ils ont de capacité d'entendre, nous essayons de parler.
Oui.
De parler et puis d'accompagner des transformations, parce que c'est ce qu'on vise. Et en même temps, on a un devoir de sécurisation de nos séjours, de nos espaces de rencontre. Et donc, on est aussi très ferme sur la possibilité, sur les limites. Et on les met, non pas contre ces gens-là, mais pour protéger les autres.
Bien sûr.
Et donc ça, pour nous, c'est un équilibre qui est difficile. Ça, c'est... Je rends grâce à Dieu pour mon épouse qui est en première ligne sur ces sujets-là et qui doit constamment trouver le moment où c'est quelqu'un qui est juste incompris ou qui lui-même ne capte pas certaines limites ou quelque chose qu'il renvoie par son comportement et le moment où ça devient trop problématique. Et bien sûr, c'est plein de conversations désagréables à avoir, mais c'est comme ça qu'on avance aussi concrètement pour les gens.
Et il y en a qui sont changés, il y en a qui se convertissent ou qui se convertissent à une meilleure relation, je parle.
Bah, évidemment, alors c'est dans les cœurs que ça se passe, hein, donc tout n'est pas toujours immédiatement visible. Mais oui, de manière visible en tout cas, je crois qu'on fait progresser des gens en leur donnant des outils de compréhension de soi. Et ça, on essaie vraiment de donner des outils de compréhension de soi. Voilà comment tu es perçu. Ça révèle bien quelque chose de qui tu es. Il faut chercher, il faut creuser. Dieu t'aime, donc tu peux y aller. Vas-y, va voir dans ton cœur parce que Dieu t'aime. Donc, t'es pas obligé de te détester, même en allant regarder au plus profond de ton cœur. Et on y croit. On y croit parce que sinon, on s'arrêterait. Hein. On arrêterait le conseil conjugal, on arrêterait le conseil pastoral. Et on plierait bagage pour y aller que avec des gens qui vont très très bien.
Je suppose que vous avez beaucoup de belles histoires. Est-ce que vous avez plus de belles histoires que de mauvaises histoires? Est-ce que est-ce que les belles histoires vous redonnent courage pour aborder les mauvaises?
Oui, des mauvaises histoires, on en a. C'est des histoires. C'est des défaites, c'est des gens qu'on va pas réussir à embarquer dans un chemin de vie. Mais globalement, en fait, on a plutôt que des belles histoires parsemées de d'histoires difficiles. Et là, vraiment, sur tous les tableaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais oui, les quatre tableaux, je veux dire, même dans les pays les plus pauvres du monde, là où c'est vraiment difficile, en Haïti, nos partenaires nous disent qu'ils ont du mal à donner plus d'un repas par jour aux enfants, l'insécurité est immense, mais quand on a des réunions tous ensemble, on prie ensemble et on est capable d'être dans la reconnaissance ensemble. Donc il n'y a pas un endroit de ce monde où on n'est pas en capacité, en possibilité de dire merci à Dieu pour quelque chose. Et c'est ça qu'on essaie de chercher. Et sur tous les aspects, vraiment, là, j'ai pris l'aspect le plus dur et émotionnellement, celui qui marque souvent le plus au plus loin de ce monde, dans les endroits les plus vraiment les plus dévastés, mais dans la vie et dans le cœur de plein de personnes ici en France, avec ou sans argent, il se passe aussi des très belles choses. Ouais.
Est-ce que le fait qu'il y ait plusieurs tendances dans la cause, des tendances théologiques et donc des différences sur les problèmes de société, est-ce que ça peut poser des problèmes, par exemple, par rapport à l'avortement ou par rapport à d'autres choses sur le concret? Par exemple, si vous avez des situations à Madagascar ou n'importe où, même en France, est-ce que ça peut créer des problèmes entre vous?
Alors, entre nous, non, en fait, nous, sur nos convictions, en fait, les uns et les autres, dans notre propre équipe, on a une liberté de penser, tous, qui est fondamentale. Un ancrage en Christ, ça permet une grande liberté de penser et de parler et de débattre. Et donc, du coup, il y a des sujets sur lesquels on va pas être d'accord. À titre individuel, moi j'ai des convictions qui sont assez évangéliques, mais ça va pas être les convictions de telle personne avec qui on va travailler. Et donc dans telle occasion de rencontre, on va se retrouver avec une diversité de convictions. En fait, on essaye de pas se laisser coincer dans le petit débat. La petite position, même si c'est très concret, l'avortement, c'est très concret, il y a plein d'autres sujets comme ça, c'est très concret, c'est oui, c'est non, et on essaie de pas se laisser coincer là-dedans, de remonter à quelque chose de plus grand, plus important, la relation, d'abord l'amour de Dieu, la foi, et après on essaie de descendre, mais vraiment en faisant très très attention, pour arriver à des diversités de convictions qui s'expriment dans le respect. Voilà.
Alors ce dialogue dans la diversité, ça me fait tout de suite mon introduction avec la Fédération protestante de France, dont vous faites partie. Oui. Alors c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie de la FPF?
La FPF, c'est d'abord un immense réseau de partenaires, de personnes qui se battent dans des églises, dans des œuvres, partout, dans les aumôneries aussi, bien sûr, c'est fondamental. C'est plein de personnes qui se battent pour apporter l'amour de Dieu, une aide au nom de Jésus. Et donc, du coup, c'est forcément des partenaires privilégiés partout. Donc nous, on bénéficie très profondément de la plateforme que constitue la Fédération protestante de France.
Et est-ce que vous demandez de l'aide aux autres protestants? Comment les autres églises protestantes, par exemple, peuvent vous aider? Est-ce qu'il y a assez de publicité? Est-ce qu'il y a assez de...
Voilà, nous, c'est vrai que une manière, là, je m'adresse à tout votre public.
Oui, il faut, on est là pour ça.
Tous les responsables d'œuvre, tous les pasteurs, toutes les personnes en responsabilité dans les églises locales. Oui, nous, ce qu'on a besoin, en fait, on veut vraiment servir. C'est vraiment notre raison d'être, la cause de Christ, au service vraiment de notre prochain. Et donc pour servir, bah on a besoin d'être connu, que soit connu notre proposition d'aide et de service. Et donc si on peut relayer nos informations, plus on nous relaie, plus on peut servir. Parce que finalement, c'est vrai que sur pas mal de sujets, ce qu'on nous dit, c'est on voudrait de l'information sur par exemple sur vos propositions pour les séjours adaptés pour les aveugles. En fait, les églises ne vont pas développer en interne un programme pour les aveugles.
Bien sûr.
En ont un,
bien sûr,
deux dans l'église. Donc en fait, ils ont besoin de nous. Et c'est là que nous, on veut se situer. Ouais. Vraiment, on veut se situer à l'endroit où en fait, on peut avoir une proposition qui soit au-delà de l'église locale. On n'est pas une église. On pique les paroissiens de personnes. Ça, je le dis à mes collègues pasteurs. Ça nous permet en fait de renforcer les gens et puis de les renvoyer servir dans ce monde.
Eh bien, merci beaucoup, Julien Coffinet, d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.
Je rappelle que vous êtes le directeur général de La Cause et qu'on peut trouver plus d'informations sur votre site internet lacause.org, La Cause tout attaché. Et merci à nos auditeurs et à bientôt pour découvrir une nouvelle facette de protestants au pluriel.
Protestants au pluriel, des convictions qui dialoguent, un engagement qui résonne.